I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier et bienvenue dans le FC Stream Team. Cette semaine, j'ai reçu un coup de fil d'une femme inquiète. D'une femme aimante qui craint pour la santé mentale de son mari. Ici, lors des introductions de la Stream Team, je suis souvent léger, moqueur, mais là, j'ai envie d'être grave. Alors oui, je prends en otage l'antenne pour un propos très personnel et égoïste, mais la santé d'un homme en dépend. Jeudi matin, donc, je reçois l'appel d'une certaine Céline D, m'expliquant que son mari faisait des insomnies depuis dimanche. Qu'il se réveillait en sueur en criant « Non ! Non, pas ça ! Non ! Non, pas le doublé de Franco Nora ! Non, c'est pas possible ! Non !» Et à 3h du matin, elle se devait de le consoler, le pauvre homme, a priori traumatisé par des cauchemars incessants. Mercredi encore, même topo, un râle de 4h du matin et dans un hurlement qui a réveillé, paraît-il, tout le Val d'Oise, ça a même résonné jusqu'à la porte de la Villette. « Non, Kakuta, pas ça ! Pas toi, Gaël ! Non, non !» Et au petit déjeuner, après le traumatisme d'une nuit à bramer, le pauvre homme se lamentait sur un banc de touche qu'il pensait capable de le mener au sommet du classement. Je comprends pas, avec Vanderson, Mara, Adeline, Dagba ou Guirassy, j'ai des armes pourtant, je comprends pas. J'ai décidé d'agir, parce que cet homme est en train de sombrer et de pourrir sa vie et celle de son entourage. Donc je vais lui donner un conseil simple. On va garder l'anonymat aussi. Écoute, Maxime D. Gardons l'anonymat, c'est important. Arrête MPG. La semaine dernière encore, je t'ai massacré. Le mieux, c'est d'arrêter. Tu es dernier de la ligue. Rends-toi à l'évidence. C'est mieux pour toi et c'est mieux pour les gens qui tiennent à toi. Voilà, désolé Maxime, j'étais un peu... Voilà, j'ai un peu pris en otage l'antenne. Tout va bien, toi ?
Bon, ça va, mais j'ai pas trop de temps avec les Jeux Olympiques, donc je peux pas...
Mais attends, ça, tu m'adressais pas à toi pour non, ça alors... personnellement.
Non, mais... Non mais on l'a déjà dit plusieurs fois ici, ça fait combien, 10, 15 ligues qu'on fait ensemble, je pense que 13 fois j'ai terminé devant toi. Donc bon
mais il se trouve que là t'es dernier.
T'as oublié de dire, non mais t'as oublié quelque chose d'important, c'est que j'ai Kylian Mbappé aussi.
Oui, bah t'as Kylian Mbappé, bah, t'as quand même perdu 3-1 le week-end dernier. Hein.
Oui, mais je te dis, et finalement, je me suis trahi. C'est-à-dire que d'habitude tu fais des achats de joueurs plutôt malins, là j'ai voulu jouer le Qatari. J'ai
Sauf que
beaucoup
t'as...
de pognon sur...
Voilà, sur un joueur, c'est ça le problème.
Sur un joueur, c'est une erreur parce que ça me ressemble pas. Voilà, moi, je suis
après, t'as Bizot dans les cages, Guirassy devant, ça tient la route. Hein.
Bah, Bizot, ça va. J'ai Paul Lopez aussi qu'on m'a prêté, mais bon, comme
ouais, il mais qui va vite revenir à la maison.
Ah ouais, bah Terrier, je vais récupérer Terrier aussi.
Exactement. Mais bon, bref.
Parce que Martin avait été sympa quand même, il avait fait un prêt. J'avais eu un problème de gardien.
Tu sais, moi, les petites équipes, tu vois, je joue rien contre les petites équipes. Enfin, je veux dire, t'es pas mon adversaire dans la ligue. Moi, je joue le titre, toi, tu joues le maintien, donc je peux te prêter quelques joueurs, tu vois. Ça s'appelle la charité.
Là, bon, tout ça pour dire qu'après 4 journées, Martin, il a 3 points de plus que moi.
Bah j'ai ouais, t'es dernier.
Et encore, c'est. Et. Non, mais là, je vais pas faire le calcul, mais pour la prochaine émission, je le ferai. En fait, Martin, il a gagné une fois, il a gagné devant moi.
Voilà. Ouais.
Donc là, il était très fier, c'est normal,
souvent,
je peux comprendre. Parce que je m'étais complètement écroulé en plus. Mais je termine toujours devant lui, je suis toujours sur le podium. Je joue toujours la Ligue des Champions l'année d'après.
Ok, bon, on en parlera à la fin de la saison. Bon, ça va sinon, Maxime, t'as passé une bonne semaine ?
Ouais, pas beaucoup dormi, mais bonne semaine, ouais.
Ouais, a priori, il fallait. Ouais. T'as eu quelques petits cauchemars la nuit, mais rien de... Ça t'a pas empêché de vivre, quoi.
Je rêve très peu la nuit, sache que je rêve très peu. Enfin, du moins, je me souviens pas de mes rêves. Parce que si on devait faire une émission sur les rêves...
Ah ouais, bah alors là, ouais. Non.
Je pense que tu tiendrais le micro pendant une bonne demi-heure.
Ouais, moi, je fais des rêves chelous. Je fais des rêves bizarres et surtout, je m'en souviens et... Et bah, c'est pas bon pour ma santé mentale, ça non plus. De quoi on va parler cette semaine, Maxime ? On a trois sujets. Trois sujets 100% Ligue 1. On va démarrer avec Lionel Messi et on va se poser la question, est-ce qu'on est trop sévère avec Lionel Messi ? Parce qu'il y a un entraîneur en Argentine, il y a Sergio Aguero qui disent que les médias français sont beaucoup trop sévères après Messi, après son match face au Real Madrid et son pénalty raté. Donc ce sera notre, notre premier sujet, on débattra de ça. Ensuite, Maxime, on évoquera le cas Milik à l'OM.
Ouais, alors là, c'est le contraire, j'allais dire, de Messi. C'est un joueur qui a retrouvé de la confiance, mais qui n'a pas l'impression de l'avoir, la confiance justement de son coach. Donc, on va se poser la question des relations entre Sampaoli et Milik. Est-ce que Sampaoli n'est-il pas en train de mettre indirectement Milik dehors à la fin de la saison ? Parce que ça ne se passe pas hyper bien entre les deux. On l'a encore vu hier soir après le match contre Karabakh.
Et alors, on terminera avec, une fois n'est pas coutume, le maintien. Les dernières équipes, parce que c'est quand même, on s'est penché dessus, c'est quand même une course assez folle. Entre le 16e et le 20e, il y a 5 équipes qui se tiennent en un point. Si on rajoute Clermont, qui n'a que 3 points de plus que le 16e, enfin bref, il y a quand même, ouais, on va dire 6 équipes qui sont concernées par une lutte qui s'annonce hyper serrée. Parce que très franchement, c'est rare de voir autant d'équipes aussi médiocres dans le championnat de France. Elles ont très très peu de points, ça ne se jouera pas à 42 cette année. Bon, avec Maxime, on vous parlera de ces équipes-là et puis on se mouillera un petit peu. Voilà, qui sera dans la charrette à la fin de l'année.
Et c'est la course la plus passionnante du championnat.
Exactement, puisque le titre est joué.
De devant, c'est joué, il n'y a aucun intérêt.
Ouais, et la Ligue des Champions, il y a une petite course, mais il y a Marseille et Nice qui ont un petit avantage. On est OK, Maxime ?
Ouais, on rappelle quand même, parce qu'on le fait de moins en moins, il faut quand même le faire.
C'est vrai, t'as raison.
Ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et même les mauvaises comme d'habitude, Google, Acast, vous voulez Spotify, Apple Podcast, vous vous abonnez puisque comme ça c'est beaucoup plus simple de récupérer vos épisodes, vous nous mettez des petites notes 5 étoiles si possible et des commentaires parce que ça nous fait bien rire et ça nous aide à nous améliorer et il y a du boulot donc autant profiter de vos lumières pour s'améliorer.
Ça, c'est vrai qu'il y a du boulot et un gros chantier en perspective. Lionel Messi a raté un pénalty face au Real Madrid. Il n'a pas été décisif dans le match où on l'attendait particulièrement, car il est quand même dans une saison très médiocre, en dessous de ses standards, seulement 7 buts. Mais on se disait qu'on avait le bénéfice du doute, que peut-être il se réservait pour les grandes affiches, que la Ligue des Champions était de toute façon à la fois le juge de paix du Paris Saint-Germain, mais aussi de l'Argentin, que c'était pour les matchs comme ça que Paris lui avait ouvert son compte en banque. Le fait est que la première manche, en tout cas, s'est mal passée pour Lionel Messi. Si Paris s'est imposé, bah, lui, il a raté un pénalty. Puis finalement, il a été assez peu décisif. Alors, on vous a fait une compilation des notes de la presse française. Alors, pas toute la presse. Les notes d'Eurosport, 4 sur 10. L'équipe, 3 sur 10. Le Parisien, 3,5 sur 10. SoFoot, 4 sur 10. Donc ça, c'est les notes concernant la prestation de Lionel Messi face au Real Madrid. Ce qui a déclenché la fureur de l'autre côté de l'Atlantique, puisque Sergio Agüero a commenté les critiques qui visent son ancien coéquipier en sélection argentine en disant « En France, les magazines et les journaux l'ont tué, ce sont des connards. » Voilà. L'entraîneur de Gimnasia de La Plata, Nestor Gorosito, a eu une formule que je trouve assez jolie. En France, ils connaissent les parfums, ils ne connaissent pas le football. Voilà. Tout ça répondait aussi à la polémique concernant Lionel Messi. Donc ma première question, Maxime, elle est simple. Est-on trop sévère avec Messi ?
Alors déjà, je vais répondre à nos amis argentins. Tout ce qui est un peu, on va dire, excessif et ridicule n'a pas de sens. Bon, Sergio Agüero, il défend son copain. Voilà. Bon, il n'aime pas qu'on dise du mal de Lionel Messi. Voilà. Force est de constater quand même que Lionel Messi n'a pas été bon contre le Real Madrid. Il n'a peut-être pas été aussi cataclysmique que certains l'ont laissé entendre. Tu as parlé du panel de notes tout à l'heure, de 3 à 4. Alors, je ne vais pas défendre Cyril Morin qui était aux notes, mais je trouve que 4 est la note la plus juste de ce que j'ai entendu. Voilà. On sait ce que c'est noter. Alors, pour vous qui nous écoutez, la note, c'est très particulier parce que vous notez un joueur en fonction, et Martin, il est bien placé pour le savoir, puisque c'est lui qui note les joueurs de l'équipe de France, on note un joueur en fonction de ce qu'il a réussi, en fonction du contexte et en fonction des autres. Ça fait 3 éléments qui ne sont pas évidents. Et avec Martin, des fois, on discute de notes. Moi, je vais lui dire, je pense que j'aurais mis un point de plus, un demi de plus. Donc, on n'est jamais complètement d'accord, mais ça donne quand même une idée, une note. Prenez le cas Mbappé. Mbappé contre le Kazakhstan, il met 4 buts. Moi, je n'ai pas envie de lui mettre une meilleure note que ce qu'il a fait contre le Real Madrid alors qu'il ne met qu'un but. C'est pour vous donner un peu ce qu'il y a derrière ça, le contexte, la performance d'un joueur qui n'est pas seulement statistique. C'est pas, on parlait de MPG tout à l'heure, ce n'est pas un arithmétique, ce n'est pas un programme qui fait que vous allez décider de manière algorithmique d'une note. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce qu'on est trop sévère? Mais est-ce que Messi a été bon contre le Real Madrid? Non, on ne peut pas dire qu'il a été bon. Je mets de côté le pénalty parce que je ne reprocherai jamais à un joueur de tirer le pénalty. Je suis toujours plus étonné, en revanche, qu'il l'ait tiré parce qu'on sait que dans sa carrière, ça a été quelque chose de toujours particulier, sa relation au pénalty. Souvenez-vous, quand il jouait au Barça avec Neymar et Suarez, il en ratait des pelletés avec ses coéquipiers. Voilà, je pense que ce n'est pas le meilleur joueur pour tirer ça et c'est vrai qu'on aurait pu mettre Mbappé au tir. Mais je ne reprocherai pas ça parce qu'encore une fois, c'est un geste technique raté et après tout, Courtois a été exceptionnel pendant le match. Maintenant, c'est plus le reste. La question qu'on peut poser aussi différemment, c'est est-ce qu'on peut se contenter de ça avec Messi?
Voilà,
est-ce qu'on doit se contenter de ça?
C'est le centre du débat pour moi.
Souvenez-vous de ce qu'on dit depuis le début de la saison et derrière quoi Pochettino se cache. C'est-à-dire qu'on n'est pas bon, mais ça va venir. Et de toute façon, en gros, je caricature évidemment, on s'en fout, puisque qui compte, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on y est. Le Real Madrid, le PSG fait un grand match contre ce Real Madrid-là. S'il y a 2 ou 3-0, il n'y a rien à dire à l'arrivée. Et il se trouve que l'un de ses maillons faibles s'appelle Lionel Messi. Donc, à partir de là, c'est problématique parce qu'il n'est pas très bon. Bah, c'est pas un maillon fort, en tout cas.
Ouais, alors, je dirais pas maillon faible, moi, parce que ce que j'ai vu dans le jeu, quand même, est intéressant. Je préfère presque le Lionel Messi de mardi face au Real Madrid que celui qui avait marqué deux buts face à Manchester City en phase de poule, mais qui, dans le jeu, en revanche, n'avait pas existé. Alors, il avait mis un but stratosphérique, mais dans le jeu, il n'avait pas existé. C'est ça qui est compliqué. Après, moi, vraiment, et c'est là où je te rejoins, c'est qu'on ne peut pas se contenter de ça pour Lionel Messi. Dans l'absolu, pour moi, il ne fait pas un match catastrophique. Dans l'absolu, il ne fait même pas un très mauvais match. Mais c'est Lionel Messi, donc automatiquement, les standards sont plus élevés. C'est ce qui explique la note de 4. C'est-à-dire que si demain, tu as Gueye qui te fait un match comme ça, bah, tu ne le notes pas de la même façon, par exemple. Le problème, c'est que tu attends que Lionel Messi soit décisif. Mardi, dans le jeu, il a parfaitement orienté, il a trouvé des décalages, mais il n'a pas été décisif. Dans la surface de décision, il lui manque encore quelque chose. Et tu ne peux pas offrir un tel salaire à Messi. Tu ne peux pas lui passer ses absences défensives si, de l'autre côté, il n'est pas absolument, je dirais, irréprochable. Mais oui, parce que c'est censé être l'un des deux meilleurs joueurs du monde. S'il n'est pas irréprochable dans la décision. Et le problème, c'est qu'il ne l'est pas. 7 buts cette saison, 7 buts. L'an dernier, je crois qu'il en a marqué 38, me semble-t-il. Là, on a passé la moitié de la saison. Il est à 7 buts. 7 buts. Ça, c'est inacceptable. Voilà, pour moi, c'est ça qui est inacceptable. C'est dans la zone de décision qui doit être plus tueur. Après, il y a plein de façons de l'expliquer.
Ouais. Après, on parlait des notes, on revient aux notes. C'est aussi, comme je l'ai dit en préambule, c'est qu'on note aussi en fonction des autres. Et quand vous comparez avec le match de Mbappé, bah vous dites, ah oui, là, il y a un problème. C'est-à-dire que Mbappé porte l'attaque sur ses épaules. Et Messi, comme tu l'as dit, au fond, il fait un match de relayeur, en quelque sorte.
Oui, c'est voilà, ça, c'est exactement
le job,
ça.
Il fluidifie. Et on en attend plus de Messi. Et j'ai regardé un petit peu ses stats, 101 ballons touchés. C'est énorme. C'est un match de milieu de terrain, on va dire. Un match de milieu de terrain, un total de milieu de terrain. 23 ballons perdus. C'est gigantesque. Alors évidemment, c'est des joueurs qui demandent du déchet parce qu'il y a une prise de risque. Mais j'ai même pas l'impression justement.
Oui, mais ça c'est comme son repli défensif, c'est-à-dire c'est pardonnable qu'ils perdent des ballons si derrière et c'est pardonnable qu'ils ne défendent pas ou peu si derrière. Alors, il apporte quelque chose dans l'issue de la rencontre.
Et encore une fois, il faut lui trouver des circonstances atténuantes. On l'a dit ici, il a changé de club pour la première fois de sa vie. Je veux dire, toute sa vie, c'est Barcelone. Il arrive à Barcelone à 12 ans ou à 13 ans. Il est resté 20 ans. Ce n'est pas seulement un changement de maillot. C'est tout ce qui tournait autour de lui et c'est toute sa vie qui change. Donc, on voit qu'il le digère pas forcément bien, tout simplement, et que c'est compliqué. Et il y a une action qui m'a marqué, ce n'est pas contre le Real, c'est contre Rennes, sur le but du PSG. Donc, Mbappé, encore une fois, dans les arrêts de jeu. En fait, ça part de Messi. Messi qui repique dans l'axe, qui donne à Mbappé. Et Mbappé, qu'est-ce qu'il fait? Il finit tout seul comme un grand. Au Barça, ça ne se passait pas comme ça. On lui remettait et lui, il frappait des 20 mètres. Voilà. Donc, il est aussi dans un autre monde où il y a un joueur à côté de lui qui est en train de devenir un monstre absolu et qui tente sa chance. Et peut-être que si Mbappé est un joueur lambda qui lui remet, peut-être que Messi balance une ogive qui va dans la lucarne, ça fait un zéro. C'est but de Messi. Mais c'est une autre façon de voir les choses. Tout ne tourne plus autour de lui. C'est compliqué. Alors après, se pose la question que je me suis posée également et qu'on se pose depuis quelques mois, parce qu'on ne va pas revenir sur le Ballon d'Or, etc., du déclin de Messi potentiel. Alors, Est-ce que Messi est en train de décliner? Alors, je pense déjà qu'à bientôt 35 ans, un joueur commence à décliner, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas des déclins spectaculaires, ce n'est pas forcément un déclin de 30%, 40% de ses capacités, mais c'est forcément une pente au moins légère qui descend, c'est forcé. Vous allez me donner des contre-exemples, comme Ronaldo et Benzema, qui à cet âge-là, Ronaldo est un peu plus vieux, étaient fantastiques ou sont fantastiques, c'est le cas de Benzema qui est incroyable. La différence, je pense, avec un Messi, et c'est peut-être là que va se produire le risque, c'est tout le travail invisible qu'il y a de ces joueurs-là, qui sont des bêtes de travail. Est-ce que Messi, avec tout le talent inné qu'il a, est prêt à le faire et le fait? J'en suis pas certain, et c'est peut-être là que le risque se pose. Mais il est vrai que je n'avancerai pas encore ça, le déclin, parce que, encore une fois, on le répète, il se retrouve dans un autre contexte qui est complètement différent et dans une situation qu'il n'arrive pas à appréhender. C'est presque, dit comme ça, ça paraît surréaliste, mais c'est compliqué pour lui.
Pour moi, il y a trois raisons pour lesquelles on a ce Messi-là. La première, il y en a deux que tu as citées. La première, c'est qu'il y a l'âge. Je pense qu'on ne retrouvera pas le grand Messi qui était capable d'éliminer 5-6 joueurs sur des appuis, sur des courses, sur des dribbles. Je pense que ça, on ne l'aura plus. Je pense que le meilleur de Messi est quand même derrière lui. Mais déjà, si on a le Messi moyen, c'est déjà très, très au-dessus de la moyenne. Mais bon, ça on l'aura plus. La deuxième chose, c'est que tu l'as dit aussi, il est sorti de son cocon. Et ça, pour moi, ça provoque un tsunami émotionnel et un tsunami technique. Parce qu'à la fois, il y a un changement d'environnement, et il y a un changement de système, il y a un changement de... Ça, tu l'as expliqué aussi. Et il y a une troisième chose, moi aussi, qui me frappe, c'est que quand même, tout ça, ça découle aussi sur une confiance qui s'érode. Et tout Messi qu'il est, ça marche à la confiance. Regardez Mbappé, il est en pleine confiance. Mbappé, ce qu'il a tenté face au Real Madrid, il ne l'aurait sans doute pas tenté il y a un an et demi, quand il était un petit peu dans le creux de la vague, ou pendant l'Euro, en juin dernier. Il n'aurait peut-être pas tenté ce dribble-là. Donc il y a aussi la confiance. Pour moi, ce sont les trois facteurs les plus marquants. Et quand tu dis quitter le cocon barcelonais... Au Barça, le projet, c'était Messi. Le projet, c'était Messi. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut repenser ça, repenser son rôle, le prendre dans une super rampe de lancement pour Mbappé ou redéfinir les contours, en tout cas, de son rôle au Paris Saint-Germain. Parce que force est de constater qu'en tout cas, ce que je disais au début de ce sujet, moi, ce qui me marque le plus, c'est qu'il... Il a plus ce petit truc dans la décision, voilà, dans le geste juste qui fait tourner un match. Après, ça reste une patte gauche exceptionnelle, mais c'est peut-être ça sur quoi il faut se concentrer pour le Paris Saint-Germain.
Le pire, c'est que son langage corporel, finalement, a toujours été le même. C'est-à-dire qu'un joueur qui, quand il perd le ballon, se traîne, baisse la tête, marche à deux à l'heure. Et là, on le voit et ça rend le truc… Alors, ça n'a pas changé, mais on se dit, on a l'impression qu'il est perdu. Il ne l'est pas plus à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça donne l'impression d'un joueur qui a du mal. Voilà. Et ce qui est étonnant, moi, honnêtement, je n'aurais pas imaginé ça. C'est-à-dire que mardi, le PSG a tenu ses promesses contre le Real. Ses promesses, c'est-à-dire on va élever notre niveau au moment où il faudra. Ils l'ont fait ce soir-là. Messi, non. Et ça, c'était vraiment la grosse cote, parce que vous pouvez penser, notamment en début de saison, que l'un n'irait pas sans l'autre. Voilà, il y a encore quelque chose à construire dans cette attaque du Paris Saint-Germain. On l'a vu avec Di Maria aussi, il y aura Neymar à réintégrer d'une manière ou d'une autre, mais c'est sûr que le chantier reste ouvert. Et on imagine que... Enfin, est-ce que le PSG peut gagner la Ligue des Champions sans un grand Messi? Ce sera une question pour plus tard.
Allez, on va passer au deuxième sujet. On va se demander si Marseille peut gagner la Ligue Europa Conférence sans un grand Milik. Milik, qui a vécu une semaine quand même particulière, qui vit quand même, depuis deux semaines, c'est assez particulier ce qu'il vit, notre ami Milik. Rappel des faits, il a inscrit un triplé contre Angers. Il a complètement sauvé l'OM qui était mené 2-0 au bout de 15 minutes de jeu. Il arrive, il met son triplé. Ensuite, match de Coupe de France face à Nice. Marseille se fait désosser sur la Côte d'Azur. Match de Ligue 1 à Metz. Donc c'est le match qui suit le match d'Angers en Ligue 1. Il le démarre sur le banc, il rentre en fin de match, il met un retour acrobatique, il sauve l'OM. Et puis, donc c'était jeudi, en Ligue Europa Conférence, Marseille face à Karabag. Il met un doublé, mais son entraîneur choisit de le sortir à la 68e minute. Il a un visage qui dit tout, c'est-à-dire qu'il a bien les boules contre Jorge Sampaoli. Et sa sortie qui avait suivi aussi son but face à Metz, où il disait « je ne comprends pas tout ». Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon travail, c'est tout. Voilà ce qu'a dit Milik. Donc, il y a un malaise Milik, il y a un malaise Milik-Sampaoli. Comment on en est arrivé là? Et est-ce que, surtout, ça ne peut pas fragiliser l'OM dans sa quête de podium jusqu'à la fin de saison, Maxime?
Bah, ça fragilise l'OM d'une certaine manière dans sa quête du fameux grand attaquant, voilà, tout simplement, parce qu'il faut dire les choses. L'OM l'a trouvé, cet attaquant. Je veux dire, Milik à l'OM, c'est quelque chose de presque inespéré. C'est-à-dire qu'un joueur de ce calibre-là qui se retrouve à l'OM, bah, j'ai envie de dire qu'il faudrait un peu le chérir. Or, il y a un problème avec Sampaoli, c'est que j'ai l'impression qu'il a ses têtes de toute façon et que bah, lui, son football, le football qu'il veut développer ne passe pas par Milik. Il a envie d'un joueur qui participe au jeu, de la fluidité, que ça reparte de l'arrière, etc. Nanana. Et il a du mal à transiger avec ça. On l'a vu, une équipe, on a coutume de dire que c'est un grand gardien, un grand avant-centre. Le grand avant-centre, ou le très bon avant-centre, il l'a, mais il le flingue un peu. Et de l'autre côté du terrain, on a vu comme ça s'est passé avec Mandanda, c'est-à-dire que Sampaoli a des préceptes. Mandanda n'est pas sorti du but en raison de ce qu'il faisait sur la ligne ou ce qu'il n'allait pas faire. Mandanda est sorti du but marseillais parce qu'il jugeait que le gardien n'était pas capable de jouer loin de ses buts comme Paul Lopez, de relancer court, d'être le premier relanceur. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il l'a très bien fait, Mandanda, contre Karabakh, avec des relances au pied. Notamment, il a allongé, donc il est malin, Mandanda, parce qu'il s'est adapté. J'ai même été surpris, je ne sais plus quel match, l'avant-dernier match où il avait joué, de le voir très loin de ses buts. J'ai l'impression que c'était la première fois qu'il s'aventure aussi loin, mais au moins, lui, il essaye. Mais n'empêche qu'on a l'impression que, Mandanda, c'est un autre sujet, mais que les dés sont un peu pipés et que là, il est en train de se creuser un fossé important entre Sampaoli et Milik. Parce que, comme tu l'as dit, Milik met un triplé contre Angers, c'est reparti. Il y a Nice, Metz, il est remplaçant, on pourrait dire, peut-être pour faire tourner. Il n'y a pas grosse raison, puisque Milik, on peut pas dire qu'il jouait beaucoup avant. Il met ce but, il se plaint, mais vraiment à la sortie du match, c'est-à-dire micro, directement, il se plaint. Ce n'est même pas pour aller dire ça peut attendre un peu, non, non, ou du off, non, pas du tout, il le dit directement. Et là, deux buts contre Karabakh, il fait le boulot, 68 minutes, il se fait sortir pour faire rentrer Payet, et il ne le vit pas bien. Alors, moi, je ne suis pas toujours fan des joueurs qui boutent quand ils sortent, parce que
moi, je le
faire la tronche quand on sort, ça veut dire que l'autre, potentiellement, ne mérite pas d'entrer. Mais, il y a un mais, Milik, là, il commence à y avoir un passif avec Sampaoli qui est problématique. Et moi, je me pose la question de Sampaoli aussi, de ses relations avec les joueurs. On était à la Coupe du Monde 2018, Martin, l'Argentine, Sampaoli, ça ne s'est pas bien terminé avec ces joueurs. C'est-à-dire que l'autogestion, l'espèce de petit putsch. On parlait, souvenez-vous, à un moment, on était en train de se dire, est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire leur nice night, les Argentins? Là, je pense que Sampaoli, il a des idées. Il est tient, il n'aime pas déroger à sa règle et je pense que ça va être quand même compliqué pendant un certain temps, si ce n'est pas jusqu'à la fin de saison avec Milik, parce que Milik ne changera pas dans sa manière de jouer. Donc tant qu'il marquera, ça ira à peu près, mais s'il y a le moindre petit hic, ça viendra à un gros problème.
Mais mettez-vous à la place de Milik. Vous êtes recruté en janvier dernier, donc en janvier 2021. Vous faites une super fin de saison. C'est vous qui tenez l'OM sur vos épaules. Vous êtes blessé. On a l'impression que l'entraîneur en profite pour tester d'autres choses. Du coup, il vous met à la cave. Vous revenez, vous mettez un triplé. Le match d'après, il vous met sur le banc. En fait, c'est pour moi, la cassure, elle est là. Et la mauvaise gestion de Sampaoli par Milik, elle est là. Entre Angers et Metz, comment tu peux le faire débuter sur le banc alors qu'il vient de sauver les miches de ton collectif, sauver les miches de ton équipe face à Angers au Vélodrome? Voilà. Pour moi, il est là le problème. Et tu l'as très bien dit dans la quête du grand attaquant. Je veux dire, les attaquants, c'était Mitroglou, Balotelli, Germain, Benedetto. Et là, Sampaoli, il est en train de gâcher celui qui peut endosser ce costume-là. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre pas dans les cases de Sampaoli. Parce que le problème, il est là. On vous a pris une déclaration de Sampaoli, c'était le 4 février, hein, donc c'était il n'y a pas longtemps. Milik, c'est plus un joueur de surface que dans le jeu. Donc, s'il n'arrive pas à marquer, son rôle devient neutre. Il faut qu'il participe au jeu. Voilà. Voilà la conception de l'avant-centre. Et je vois Maxime qui boue. Alors, si vous nous écoutez dans le podcast, vous ne voyez pas, mais voilà, Maxime boue intérieurement. Mais il va attendre que je lui passe la parole parce qu'il a parlé 108 minutes. Mais voilà, il met l'attaquant dans une case, il met l'avant-centre dans une case. Et comme Milik ne rentre pas dans cette case, ça pose un problème. Or, pour moi, le problème, c'est pas Milik le problème. Non, pour moi, le problème, c'est Sampaoli parce qu'il a un Milik, donc un grand attaquant, qui marque des buts. Il a un Payet, qui est un super joueur, qui est le meilleur joueur de l'OM, et ça, c'est indiscutable. Et il n'arrive pas à les faire jouer ensemble. C'est-à-dire quand l'un joue, il est très bon. Quand l'un joue sans l'autre, il est très bon. Mais quand les deux jouent ensemble, Payet, il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Il est sur l'aile gauche, etc. Mais le problème, c'est que c'est l'entraîneur qui doit mettre ça en musique. Donc le problème, ce n'est pas Milik. Pour moi, c'est Sampaoli. Ouais. Parce que quand tu as deux joueurs de ce niveau-là à Marseille, il sera au Real, il sera au Bayern, la question se posera autrement. Mais à Marseille, tu es obligé de les faire jouer ensemble.
Ouais, je suis d'accord. Et surtout que Payet est depuis un certain temps à Marseille et que lui, il a vu passer des avant-centres qui étaient moins bons que Milik. Et souvenez-vous qu'il arrivait à les faire marquer. Parce que si Payet a une qualité, justement, c'est d'essayer de faire jouer, de mettre en confiance ses coéquipiers. Et Mitroglou, notamment, il y a eu 2-3 fois, j'exagère, mais où il a dribblé le gardien, il a donné le ballon à Mitroglou pour qu'il marque. C'est arrivé plusieurs fois qu'il l'aide comme ça. Donc, je ne peux pas croire qu'il y ait une incompatibilité entre Milik et Payet.
Il y a autre chose, Maxime, et là, je remercie Norman, qui est celui qui produit notre émission. Sampaoli, il est actuellement en conférence de presse et il a parlé du cas Milik. Donc, déjà, ça fait quelques temps que je trouve que Sampaoli est... J'avais pris une déclaration sur Payet de Sampaoli. Je considère que Dimitri joue à un très haut niveau. Dans ma carrière d'entraîneur, c'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai pu travailler. Or, sur Milik, il est rarement comme ça aussi. Il s'épanche rarement autant. Et là, donc on l'a questionné en conférence de presse sur Milik qui fait un peu la tronche quand il sort quand il se fait remplacer face à Karabag. Et il répond, il doit être heureux car il a marqué. Parce que l'équipe a gagné et qu'un partenaire est entré à sa place. Les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. On a gagné, il a marqué, donc il doit être heureux. S'il n'est pas heureux à ce moment-là, il doit peut-être en parler avec quelqu'un d'autre. Donc assez clair qu'entre les deux, il y a un truc qui s'est cassé. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est que Sampaoli, aujourd'hui, n'est pas en danger à l'OM. S'il qualifie l'OM pour la Ligue des Champions, tout ira bien. Mais on n'imagine pas un futur entre Milik et Sampaoli. Et si Marseille doit se séparer de Milik, un joueur après lequel il a couru depuis des années et des années, ce serait un gâchis monumental.
Non, mais c'est du gâchis. Et sa vision du poste d'avant-centre, ah oui, un avant-centre, ça peut être un point mort, mais un avant-centre qui marque, c'est bien aussi. Et alors évidemment, oui, on sait qu'il aime bien les préceptes de Guardiola, qu'il joue sans avant-centre, tous les joueurs peuvent marquer, etc. Sauf qu'il n'a pas l'effectif de Manchester City. Et que si Manchester City peut se passer d'un joueur comme Milik, parce qu'il y a du talent tout autour, bah Marseille a un petit peu moins de talent. Et quand elle en a un, quand elle a la chance de récupérer un attaquant comme Milik, bah autant le faire jouer, autant le faire marquer. Et là, ce qui est terrible, c'est cette déclat de conf, c'est que oui, il l'a dans le pif, tout simplement.
Voilà, ouais.
Donc, ça sent, de toute manière, ça sent. Je pense qu'il y a deux joueurs qui vont avoir beaucoup de mal avec lui et qui sûrement, lui, a beaucoup de mal avec eux, c'est Mandanda et Milik. Dommage, c'est le gardien et l'avant-centre. Heureusement que Paul Lopez est très bon avec l'OM, parce que sinon, je pense qu'il aurait d'autres problèmes.
Et heureusement que Payet fait une saison de feu aussi, parce que sinon, ça tiendrait pas. On va parler du bas de tableau maintenant, Maxime. On a parlé du très haut de tableau avec le Paris Saint-Germain, de la Ligue des Champions d'un candidat à la Ligue des Champions avec l'OM. Mais on va aussi parler, parce que dans le FC Stream Team, on aime bien aussi parler des petits clubs, mais il se trouve qu'en bas de tableau, il n'y a pas que des petits clubs cette année, et c'est ce qui rend aussi la chose plus épicée encore. Alors, on a 6 clubs qui sont concernés par le maintien, 5 qui se tiennent en un point, je vais vous le faire vite, Clermont 24 points, 15e, 16e 3, 21 points, 17e Lorient 21 points, 18e Saint-Etienne 21 points, 19e Metz 20 points, 20e Bordeaux 20 points. Voilà, il n'y a pas qu'un cancre, il y en a beaucoup, c'est très médiocre en bas de tableau cette année, et le maintien ne se jouera sans doute pas à 42 points, mais sans doute bien en dessous. Dans cette lutte pour le maintien, Maxime, est-ce que tu vois des têtes dépassées? Est-ce que tu vois des équipes s'en sortir plus que d'autres, et d'autres au contraire sombrer littéralement dans les semaines qui viennent?
Déjà, ce qui est dingue, alors tu as dit il y a un point, et je crois que dans les 3 derniers, si je ne m'abuse, on a 16 titres de champion de France, 10 ou 12 Coupes de France et 4 Coupes de la Ligue. Donc c'est exceptionnel, et évidemment, c'est Saint-Etienne et Bordeaux. Bah, à la lecture du classement aujourd'hui et du rythme, je mettrais quand même une petite pièce pour Saint-Etienne pour sauver. Voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de redémarrer et que Pascal Duprat, sur le long terme, je ne sais pas, mais Pascal Duprat, sur une mission commando telle que celle-là, ça peut marcher. J'ai l'impression que Saint-Etienne refait un peu le coup de régulier de l'hiver qui change un peu le destin du club. J'ai l'impression qu'ils savent faire. Et je suis moins inquiet pour Saint-Etienne que pour Bordeaux, par exemple, parce que Bordeaux, oh là là, c'est la défense. La défense, c'est pas possible. Je veux dire. Alors, il y a David Guillon qui arrive, mais 61 buts encaissés. Pour rappel, le record de la plus mauvaise défense en championnat de France au 21e siècle, c'est 83 buts encaissés. il y a 6 ans.
Ah, ils vont l'éclater.
Je pense que Bordeaux peut l'éclater. C'est très compliqué. Et moi, il y a un truc qui m'intrigue en fait sur Bordeaux. Parce que là, ce qui est difficile, c'est de donner son avis sans être certain de ce qu'elle va faire, David Guillon. C'est quand même qu'il a été recruté, notamment sur la data et sur les statistiques. Ils ont vu, notamment les statisticiens, que les équipes de David Guillon concédaient moins d'occasions que les équipes adverses. Il était très performant là-dessus. Alors ça, c'est très bien. C'est une vision très américaine du football. Mais enfin bon, les statisticiens, il faut leur dire que ce n'était pas les mêmes joueurs qu'il avait. Donc à un moment, je ne sais pas si ça marchera. Mais quand même, je suis quand même assez inquiet, on va dire, pour Bordeaux, pour être tout à fait honnête. Pas seulement parce qu'ils sont derniers, mais parce que c'est une équipe qui prend but sur but et qui n'y arrive pas. Et je suis aussi inquiet pour une autre équipe, mais là, j'ai l'impression qu'elle l'a bien cherché, c'est les Stacks. Voilà. Les Stacks de Laurent Batless n'étaient pas en situation non plus confortable au moment où ce dernier a été remercié, enfin du moins où il est parti d'un commun accord avec Troyes. Mais je trouve que Troyes s'est tiré une balle dans le pied. Pourquoi ? Et là, il y a une petite ironie, c'est que vous le savez sans doute, Troyes aujourd'hui appartient à Citigroup. Citigroup, c'est notamment le propriétaire de Manchester City. Et qu'est-ce que Troyes pour Manchester City ? Une succursale où on balance des joueurs pour les faire jouer. Donc à partir du moment où Laurent Batless n'était pas tellement d'accord avec le groupe, on va dire général de Citigroup, pour ne pas essayer, pas faire jouer des joueurs qu'on lui a mis dans les pattes, prêté, et qui ne faisait pas son affaire, bah en gros, on lui a dit « Écoute, Coco, t'es gentil, mais tu te barres. » Le problème, c'est qu'on appelle ça du football et que déjà, la définition même d'un groupe qui possède plusieurs clubs de football, je trouve ça complètement indécent, comme quand ils étaient venus présenter le trophée de la Première Ligue au Stade de l'Aube, comme si c'était une récompense pour les joueurs, pour les supporters de Troyes parce que Manchester City ait gagné le titre en Angleterre. Je trouve ça complètement aberrant. Et ce serait, je souhaite pas à Troyes, mais d'un autre côté, je me dis que c'est pas des manières de faire, tout simplement. Donc, je suis très inquiet, on va dire, pour Bordeaux et pour Troyes.
Il y a une autre chose avec Troyes, c'est que avec Batless, il était très populaire, il faisait à peu près l'unanimité auprès de ses joueurs. Yannès qui vient d'arriver, une personnalité beaucoup plus clivante. Et c'est exactement le contraire à Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'on avait Puel, qui était extrêmement clivant, qui est très très dur. Dupraz est arrivé, il a apporté comme ça, alors c'est dans l'interview qu'il nous avait accordé, hein, qu'au bout de 4 jours, il connaissait les prénoms des enfants de chaque joueur, mais c'est vrai que Dupraz est très proche de ses joueurs, et Kolo Dziesak le disait très bien après la victoire face à Clermont-Ferrand, voilà, il joue les papas. Et que Saint-Etienne avait besoin de ce truc-là pour libérer les énergies. Et j'ai peur qu'à 3, quand on est le couteau entre les dents, et qu'en plus on est avec un entraîneur qui est peut-être un peu plus dur, que ce soit un petit peu plus compliqué. Moi, dans cette course, pareil, hein, je miserai pas sur Bordeaux parce que Saint-Etienne avait quelque chose aussi que Bordeaux n'a pas, c'est que Saint-Etienne, je les ai jamais vu abdiquer au cours de la saison. C'est-à-dire que même sous Puel, les victoires qu'arrachaient les joueurs des Verts, bah, ils les arrachaient. Et souvent, en seconde période, mais je crois que c'est l'équipe d'ailleurs qui prend le plus de points dans le dernier quart d'heure.
Peut-être le PSG aussi.
Ou alors,
mais bon, en tout cas, ça dit quelque chose.
Voilà, ça dit absolument quelque chose, exactement. Parce que, alors moi, sur le mercato d'hiver de Saint-Té, hormis Bernardoni, et peut-être le petit Sacco, là, qu'on a vu deux fois, bon, Mangala, Niagnon, l'autre Sacco, l'attaquant, j'ai quand même des gros doutes. Mais Bernardoni va faire un bien fou à l'AS Saint-Etienne. Alors, je ne dis pas qu'Etienne Green n'était pas bon, mais je pense qu'ils avaient besoin d'un gardien beaucoup plus expérimenté, qui connaissait mieux la Ligue 1. Et se sauver avec un petit gardien tout jeune, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Et Bernard Denis fait beaucoup, beaucoup de bien, au-delà de ce qu'il fait dans le but, mais même dans ce qu'il raconte, même dans comment il dirige sa défense. Donc, je pense que c'est là, de toutes les recrues de cette bas de tableau, je pense que c'est celui qui peut faire la différence. J'ai des doutes sur Metz aussi. J'ai des doutes sur Metz qui souvent s'en sortait par des talents offensifs ces dernières années. Là, je ne vois pas grand-chose poindre. Moi, je mettrais Bordeaux 3 et Metz en barragiste. Personnellement, Maxime, s'il fallait...
Non, mais ça tient. Oui, je n'ai pas donné le barragiste, mais oui, ça se tient. On n'a pas parlé de Lorient, mais de toute façon, ça ne va pas jouer à grand-chose, déjà, les écarts qu'on voit là. Et pour revenir à ce que tu disais sur Saint-Etienne, c'est intéressant parce qu'à un moment, comme tu dis, Puel, c'est quelqu'un de très dur, intransigeant. Et à un moment, il faut comprendre que les joueurs ont peut-être besoin de calinothérapie, simplement. Alors, je pense que Dupraz peut aussi dire les choses d'une certaine manière aussi, mais n'empêche que ce n'est pas anodin, parce que quand un entraîneur parle à la presse, il ne parle pas seulement pour lui, enfin, il parle pour se faire mousser aussi de ce qu'il réussit, de ce qu'il sait faire, mais il parle à ses supporters et il parle aussi à ses joueurs.
Exactement.
Donc le côté de dire je connais les noms, les prénoms des femmes et des enfants, etc., c'est une manière de dire bah, moi, je viens pour les protéger et les aider. Et c'est vrai que des équipes ont besoin aussi à un moment, quand elles sont dans une phase d'échec, d'être aidées et non pas de reprendre un coup de bâton. Et là, trois, on est sur le truc inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive, qui avait une vision, qui était plutôt loué pour ses qualités, Laurent Batless, réussissait quand même quelque chose d'assez correct avec trois, avec l'effectif.
Il les a fait monter quand même.
Il les a fait monter, voilà. Et il faut dire, rappelez-vous en plus que trois, c'est quand même des spécialistes de monter, descendre de l'ascenseur. Donc il était en train de réussir quelque chose, mais tout simplement parce qu'il y a un groupe au-dessus qui dit, en gros, j'exagère, je vous file mes joueurs, vous n'en voulez pas. En plus, il faut savoir, c'était une info de RMC qui racontait que ces joueurs-là, arrivant de City, avaient un salaire plus important, souvent, que les joueurs en place. Donc ce sont des joueurs dont l'entraîneur ne se sert pas, qui sont mieux payés que des titulaires. Donc forcément, ça crée des dissensions. Et finalement, vous finissez par le payer. Et là, le choix de virer Batless, enfin du moins de lui reprendre les clés, on va dire, de l'équipe première, pour Earless, bah, c'est très risqué. Je ne sais pas où ça ira, mais je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens.
Et le dernier argument en faveur de Saint-Etienne aussi, c'est quand même, et Puel Duprat, la bascule pour cela, elle est primordiale, c'est Geoffroy Guichard aussi. C'est que dimanche, ouais, face à Strasbourg, vous allez avoir deux copes pleins qui vont supporter l'équipe. Et ça, ça change tout. On était dans un climat de défiance depuis des mois et des mois et des mois. Alors, à cause des présidents, mais aussi à cause de la personnalité de Claude Puel. Et que Dupraz, il a réussi à se remettre les supporters dans la poche, évidemment avec les résultats, mais aussi par ses propos. Et ça, dans la course au maintien, quand je regarde les équipes devant moi, je me dis que Geoffroy Guichard peut être aussi... peut faire basculer cette course au maintien.
Ouais, c'est pas un appui sur lequel Bordeaux pourra se reposer, par exemple.
Par exemple. On a fait le tour, Maxime. Je te remercie, tu as été brillant. Ça fait deux semaines que tu n'as pas regardé de foot puisque tu es sur les Jeux Olympiques. il m'a même demandé avant l'émission, c'est bien le sport où il faut mettre le ballon entre les filets, ouais, entre les poteaux. Je dis oui, mais pas au-dessus. Parce qu'il confondait avec le rugby à un moment, les poteaux, tout ça. Donc j'ai, ouais, dû lui rappeler les règles. Et finalement, franchement,
j'ai vu les matchs de Saint-Etienne, c'est pour ça.
Franchement, ça ne s'est pas vu, Maxime, que tu suivais plus rien depuis deux semaines.
Ah ben, et je vous dis, pour ceux qui ont suivi les Jeux Olympiques sur Eurosport.
Tu vas nous reparler du patinage artistique, là.
Incroyable.
Putain, mais ça fait deux jours qu'il me parle de patinage artistique. C'est-à-dire que Maxime ne savait même pas que ce sport existait il y a deux semaines.
C'est gentil.
Ah là, non, mais là, tu ne te rends pas compte, là, ce qui s'est passé.
Ce qu'on a vécu hier avec Valieva, c'est un moment incroyable et d'une tristesse infinie. Mais c'était un grand moment, entre guillemets, j'aurais préféré pas le vivre, mais c'était un moment incroyable qui m'a marqué, je pense. Ça restera dans les moments de l'année.
Et plus que le journaliste sportif, j'ai l'impression que c'est l'homme qui parle.
Ouais, exactement. Et le papa aussi.
Voir le papa, voilà. Exactement.
Ouais, exactement.
Oh putain. Ah putain, là tu m'as aimé, Maxime.
Ouais, en tout cas, je continue à suivre les Jeux Olympiques sur Eurosport.
Exactement.
Ça continue jusqu'à dimanche. Et puis après, ça continuera encore plus loin, Paris 2024. Ce, exactement, sera en intégralité. Alors là, vous avez le temps de voir venir, mais quand même, nous, on s'y prépare déjà. C'est fantastique.
Pas de Maxime Dupuis la semaine prochaine parce qu'il se fait griller sur South Beach, sur la côte californienne. Hein, il va soulever de la fonte. Derrière, il va boire sa petite margarita et après, il va se faire bronzer tranquillement. Il va revenir. Vous n'allez pas le reconnaître. Ça va être Valdemar Quitta, le mec. Il va être orange dans le prochain FC Stream.
Vaut mieux pas, parce que moi, si je fais ça, je pense que je vais avoir des problèmes.
Oui, c'est clair. C'est clair. Donc, Maxime sera à South Beach. Donc, pas de FC Stream Team pour lui. Moi, je vais modestement aussi prendre quelques vacances, ouais, dans quelques bassins miniers, je ne sais pas où encore. Voilà, manger des pommes de terre et boire de l'eau. Voilà.
Les rutabagas.
Oui, parce qu'avec Maxime.
Qui mange encore des rutabagas?
Parce qu'avec Maxime, vous le savez bien. Pas traité de la même façon, Eurosport. Enfin bref, on se donne rendez-vous du coup dans deux semaines, Maxime. Tu seras revenu ou tu prends en trois mois comme chaque fois?
Non, je serai revenu.
Tu seras revenu dans deux semaines.
Alors, qui présentera l'émission la semaine prochaine? C'est une surprise.
Eh bien, j'ai pas regardé le planning, j'ai rire toi, donc ça va être.
On va pas le dire, au moins les gens ont la surprise. J'écouterai avec grande intention l'introduction.
Tu vas capter là-bas? Tu l'auras en Rica, le FC Stream Team, non? Hello guys! Rendez-vous donc dans deux semaines pour Maxime et moi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un FC Stream Team avec un casting inédit. Merci Norman qui fait toujours aussi bien des vidéos. Donc bravo à toi qui est derrière les manettes. Merci à Marco Popovic pour les visuels. Et puis bonnes vacances Maxime.
Et bonnes vacances Martin.
Voilà. Ciao ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.